a record of the delightful piece they're going to play this evening.
Je me nomme Gis et je vous propose une émission sur le langage, avec des chroniques qui démasquent les expressions et les mots. Nous ne pensons pas en dehors des mots, ils conditionnent notre façon de penser. L'intention ici est de souffler sur les mots et d'embraser notre présence. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'ego. En latin, ça signifie « moi ». Ces dernières années, l'utilisation de ce mot est devenue commun et se retrouve au coin des phrases, au coin des rues. Beaucoup de personnes s'en emparent, le collant à une définition souvent toute personnelle. Ce qui reste semblable à toutes et tous, c'est l'idée qu'il s'agit de quelque chose de négatif, de mal. Ceci étant soutenu par les propos de certains milieux spirituels et psychologiques qui en parlent en le montrant comme une force obscure qui est en nous, contre laquelle il faut lutter, et avec des mots souvent culpabilisants. L'ego est principalement rendu synonyme d'orgueil, de nombrilisme, d'égoïsme. Dans la perspective bouddhiste, l'ego n'est pas une entité et n'est pas fixe. C'est un mécanisme qui vise à nous rassurer. Ce n'est pas un problème, mais une base sur laquelle travailler. Ce mécanisme pour nous rassurer est basé sur la croyance d'une séparation entre soi et le monde, c'est-à-dire l'autre, l'événement, l'arbre, le son, l'émotion, etc. C'est une posture de non-lien qui peut nous amener à des comportements de jugement, de violence, d'indifférence, qui conduisent donc à la souffrance. Cette vision forge l'idée que chacun, chacune aurait une identité fixe, vue en tant que point de référence pour interagir. Ce qui crée une représentation de soi-même, et aussi de l'autre, appelée souvent personnalité, caractère. Cette croyance de séparation vient d'une protection face aux souffrances et détresses du passé. Un processus intérieur de survie l'a construit pour nous aider à nous adapter à la situation et pouvoir continuer à exister. Nous sommes bien faits et bien faites. Les fonctionnements qui en découlent peuvent prendre différents visages, qui ne renvoient pas forcément à des attitudes désagréables ou hautaines. Il peut s'agir de fonctionnements où l'on veut toujours être gentil et serviable, ou bien où l'on veut sans cesse sauver l'autre. Il peut aussi faire qu'une personne parlera beaucoup et voudra prendre toute la place, ou bien qu'elle n'osera jamais contredire quelqu'un, etc. Nous pensons avoir une identité, et c'est bien là où réside l'ego. La croyance que nous sommes des caractéristiques fixes. En tant qu'êtres vivantes et vivants, nous ne sommes pas figés. Nous ne sommes pas ce que nous nous efforçons d'être, de paraître. Nous ne sommes pas ce que l'on attend de nous. Nous sommes des êtres vivants, oui, traversés par de multiples aspects, orientations, rapports à... Bien sûr, nous avons des attraits particuliers, des façons d'être qui reviennent. Mais le mécanisme égotique se caractérise par le fait qu'il ne veut pas changer, qu'il y a une crispation sur le « je suis comme ça ». L'ego n'est donc pas une entité mauvaise en nous dont il faut nous débarrasser. En mon sens, nous n'avons rien de mauvais en nous. Nous avons certes des mécanismes de protection pas toujours gracieux, mais c'est sans doute en faisant le choix de l'attention, de la tendresse, de l'humour, qu'ils pourront s'apaiser, se transformer. « Tout vaut un baiser », écrivait Victor Hugo. Alors partons à la rencontre de nos tendances. Embrassons-les, relâchons-les. C'était Gis pour la chronique sur le langage. Les mots ont un pouvoir.